This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir aux États-Unis, au Japon, Turquie, en Italie, c'est-à-dire dans différentes zones sismiques à travers le monde. Ce sera la une du journal de l'International de Michael Thébault. À 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde, consacré ce soir à l'énorme amende infligée par l'Europe au géant de l'informatique américain Apple. Arnaud Leparmentier est fou de joie. Tout de suite, on parle du TAFTA.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Le traité transatlantique en cours de négociation entre l'Europe et les États-Unis. Son objet, vous le savez, est de créer une gigantesque zone de libre-échange, de faciliter le commerce en simplifiant des milliers de normes qui l'entraveraient. Je parle au conditionnel. La négociation fut d'abord ultra secrète, donnant aux populations concernées le sentiment qu'il y avait des choses à cacher, puisqu'on se cachait. Et s'il y a désormais un tout petit peu plus de transparence, des pays européens, et pas des moindres, disent aujourd'hui ne plus y croire, voire carrément rejeter ce projet de traité. Bonsoir Thomas Porcher.
Bonsoir.
Économiste, professeur à la Paris School of Business, auteur de TAFTA, l'accord du plus fort aux éditions Max Milo, en direct et en duplex de Bruxelles. Franck Proust, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé PPE, membre de la commission commerce international à Bruxelles. La France dit non, des voix disent en substance la même chose en Allemagne. C'est le début de la fin pour le TAFTA, Thomas Porcher.
Bon, là, faut rappeler quand même que Matthias Fekel a été vraiment plus loin que le ministre de l'économie allemand, puisque là, il a demandé l'arrêt des négociations, alors que le ministre allemand a dit que c'était pratiquement terminé avec TAFTA. Donc, moi, j'espère que ça va créer un élan et que le ministre de l'économie allemand va se rallier complètement et d'autres ministres et qu'on va arrêter ce mandat et que les négociations vont s'arrêter. Si Matthias Fekel est isolé et qu'il reste seul, les négociations continueront, malheureusement, autant le dire.
Franck Proust, comment avez-vous pris la position française et l'amorce de position allemande?
J'avoue avoir été un petit peu stupéfait, parce que quand on regarde l'historique des comportements du gouvernement actuel, il y a un an, aux universités d'été du Parti Socialiste, Manuel Valls, Matthias Fekel, tout le monde prônait la concrétisation de cet accord. En juillet dernier, François Hollande, au dernier Conseil européen, a redonné la confiance à Jean-Claude Juncker pour aller négocier cet accord. Et alors qu'au mois d'août, rien ne s'est passé, la France demande comme ça d'arrêter des négociations, alors que nous sommes normalement à la rentrée, en face pour commencer à négocier les points, les lignes rouges qui sont importantes pour nous, pour essayer d'aboutir, je dis bien essayer d'aboutir, sur un accord gagnant-gagnant qui pourrait à la fois protéger nos concitoyens et nos entreprises. Aujourd'hui, moi je veux bien avoir une position contre un traité, à condition que ce traité existe. On est en train de se battre contre des moulins à vent sur quelque chose qui n'existe pas.
Vous critiquez la position française, mais la position allemande, en tout cas, de certains Allemands, et pas des moindres, semblent converger.
Oui, disons qu'il y a la création aujourd'hui d'un couple socialiste franco-allemand, parce que la personne qui a parlé au nom de l'Allemagne n'est autre que M. Gabriel, qui prépare lui aussi ses élections présidentielles. Et malheureusement, j'allais dire, au travers de ces négociations, il y a le calendrier électoral qui vient perturber l'aspect rationnel de ces négociations. Le calendrier américain, le calendrier français et le calendrier allemand.
Oui, parce que c'est des deux côtés de l'Atlantique que les critiques sont extrêmement fortes, Thomas Porcher. Le mot élection a été prononcé, je pense qu'il est très important.
Effectivement, il y a un calendrier électoral qui joue contre le calendrier des négociations, mais les premières fortes oppositions viennent quand même des États-Unis, des deux candidats à l'élection présidentielle, Trump qui était fermement opposé, Bernie Sanders était également opposé à l'aile gauche, et Hillary Clinton aujourd'hui, qui était pour au départ, à une position mitigée. Donc la position vraiment mitigée est aujourd'hui une position mainstream. Mais il ne faut pas non plus être aveugle, il n'y a pas que du jeu politique. On voit bien que dans ces négociations, il y a tout un tas de points sur lesquels les Américains et les Européens ne sont pas d'accord sur le principe de précaution, sur l'ouverture des marchés publics américains. Et puis, on échange déjà énormément de biens avec les États-Unis. Il y a des entreprises américaines, vous allez le voir après, comme Apple, qui ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts en Europe. Donc, on échange déjà énormément de biens. Après, pourquoi aller plus loin, aller sur ces normes, notamment ces normes alimentaires? Est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose à pas réglementer vers le bas et profiter aux grandes multinationales? J'en suis pas si sûr.
Pourquoi aller plus loin? Franck Proust demande Thomas Porcher. Quelle réponse lui apportez-vous?
Mais tout simplement parce que la grande question, quand on rencontre les entreprises, et je pense notamment aux PME, PMI, parce que, comme M. Porcher parle des multinationales, à la limite, elles n'ont pas besoin de cet accord pour travailler. Elles ont la puissance commerciale, la puissance juridique pour se défendre. Une PME, PMI aujourd'hui, aller travailler avec les États-Unis, aller s'implanter, se défendre en cas de conflit, c'est quasiment impossible. M. Porcher parlait des marchés publics. Effectivement, je peux comprendre la réticence des Américains aujourd'hui, puisque quand on parle marché public, vous savez, et on reproche à juste titre que l'Europe est trop ouverte au monde. Et moi, je suis un adepte de la mondialisation, à condition que tout le monde joue avec les mêmes règles. Sauf que les règles, elles sont différentes. En Europe, nous ouvrons nos marchés publics à hauteur de 80%. Or, les Américains l'ouvrent à 30%. Donc, ceux qui crient victoire, on nous dit, les Américains ne veulent pas avancer. Alors, moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On reste en l'état? Ça veut dire que, pour une entreprise française ou européenne, il est quasiment aujourd'hui impossible de pénétrer les marchés américains. Or, quand on voit les taux de croissance aujourd'hui en Europe sur les 28 États membres qui tournent autour de 1 à 2%, si nous, politiques, nous n'arrivons pas à créer un environnement économique et politique qui permette à nos entreprises, et je pense aux plus petites PME, PMI, d'aller chercher des parts de marché à l'extérieur, à la fois sur des pays émergents ou comme aux États-Unis où il y a un taux de croissance qui est important, alors on viendra m'expliquer comment nos entreprises pourraient retrouver la croissance et donc générer de l'emploi.
Donc pour vous, c'est clair et net, Franck Proust, c'est bon pour l'économie le TAFTA?
Ben, c'est bon à condition qu'on arrive à nos fins. Moi, j'ai défini, si vous voulez, quatre lignes rouges depuis le début. Pas une béatitude. Mais quand je me lance dans une négociation, d'abord, je vais aller vers un accord gagnant-gagnant et pas perdant-perdant, sinon j'entame pas des négociations. Et quand je m'appelle Europe, que je suis la première puissance commerciale au monde, j'estime qu'on a tous les pouvoirs pour permettre de nous imposer face aux États-Unis. J'ai quatre lignes rouges. La première, on en a parlé, c'est la réciprocité des marchés publics pour que nos entreprises puissent accéder autant que les Américains aux marchés publics. La deuxième ligne rouge, c'est la défense de nos indicateurs géographiques protégés, ce qu'on appelait les AOP. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un monde agricole qui est attaqué. On voit les Américains vendre des spiritueux avec l'appellation château, avec l'appellation champagne, avec l'appellation parmesan pour dans le secteur fromager. Et on a l'impossibilité de se protéger, donc impossible d'exporter. La troisième
ligne rouge
pour moi, c'est-à-dire, c'est des lignes qui, si nous n'obtenons pas satisfaction, je n'aurai aucun état d'âme à voter contre le TTIP. C'est l'alignement des normes vers le haut. C'est-à-dire, il y a des secteurs où les États-Unis sont meilleurs que nous sur les normes. Dans bien des domaines, notamment dans le domaine agroalimentaire, ce sont les Européens qui ont des normes supérieures. Si on arrive à créer au monde une norme américano-européenne, c'est cette norme-là de fait qui va s'imposer au monde entier. Si nous arrivons à un échec, notamment sur cet aspect normatif, eh bien moi je prends les paris que d'ici 5 à 10 ans, c'est le continent asiatique qui va nous imposer ses normes. Et vous savez comme moi, dans le domaine industriel, on peut interroger les entreprises, ne pas avoir une norme mondiale, c'est perdre 25% de compétitivité en plus. Donc déjà que nous avons des coûts sociaux les plus élevés au monde, si en plus on perd la compétitivité et l'aspect normatif, je ne vois pas aujourd'hui comment demain nos entreprises européennes seront compétitives.
Thomas Porcher.
Je suis d'accord, si c'était ça le TAFTA en partie...
Ça n'est pas ça.
Ce n'est pas ça, mais non, je pense que c'est une vision un peu enchantée. La première chose, il faut arrêter de parler des PME. Vous pensez vraiment que les lobbies qui sont derrière les négociateurs sont des lobbies de PME? C'est pas plutôt des lobbies de grandes multinationales? Enfin, vous êtes quand même à Bruxelles et vous savez très bien qu'il y a des lobbies qui sont alimentés plus par les grandes multinationales que par les PME. Donc j'ai bien peur que dans les négociations, on se soucie très peu des PME, à part en surface, et beaucoup plus du sort de Volkswagen ou de grands champions américains. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous l'avez dit à juste titre, dans l'alimentaire, les normes sont beaucoup plus faibles. Le coût de production de la viande bovine est 40% moins cher aux États-Unis. Quel est l'intérêt de ces géants de l'agroalimentaire de lâcher leurs normes pour s'adapter aux normes européennes qui sont plus élevées? Elles n'ont aucun intérêt économique. Vous regardez les 10 premières multinationales, vous en avez 8 américaines, 0 européennes. Ces 8 multinationales vont lâcher leurs normes et leurs coûts de production qui sont plus faibles pour prendre les coûts de production européens qui sont plus élevés et en subir les coûts d'ajustement juste pour les beaux yeux de l'Europe. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a un véritable rapport de force qui s'établit et on voit bien comment le gouvernement américain est derrière Apple, le trésor public est derrière Apple. Et j'ai pas vu beaucoup, moi, des gens de la commission être derrière Volkswagen, même si, à juste titre. Mais on voit bien que l'État américain est un État stratège, qui n'est pas le cas avec la commission. Donc ce sera un rapport de force extrêmement élevé. Et dans tout un tas de secteurs, vous savez, quand les intérêts convergent et quand ils ont pour but de baisser les réglementations, ça fonctionne bien. L'interdiction de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste en France, que ce soit une compagnie américaine, française ou hollandaise, elles ont pour but de casser cette réglementation parce que leurs intérêts convergent. Donc parfois, on n'est pas en opposition et le but, ce sera de baisser les réglementations.
Et vous pensez, Thomas Porcher, que c'est écrit dans le marbre que l'Europe sera de toute façon plus faible que les États-Unis ?
Pas surtout. Je veux dire, pourquoi Angela Merkel soutient ce traité ? Parce qu'elle sait très bien que BMW et Mercedes a des chances de prendre des parts de marché sur les constructeurs automobiles américains. Donc, on ne va pas être perdant partout. Et puis, il y a des normes où, effectivement, on a des normes plus faibles que les Américains. Sur un tiers des normes, on a des normes plus faibles que les Américains. Donc, il y a des secteurs qui vont être gagnants et d'autres perdants. Mais cette étude, secteur par secteur, est-ce que ça pourrait représenter même pour l'économie française, pas que l'économie européenne, n'a pas été faite aujourd'hui.
Franck Proust, sur l'idée que des acteurs économiques de tout premier plan n'ont absolument aucun intérêt économique à se doter de normes plus contraignantes que celles qui leur ont permis de s'enrichir. Quelle est votre réponse ?
Ah mais là, je suis pas contre. Encore, je le dis, cet accord, il n'est pas fait pour les multinationales. Parce qu'encore une fois, des deux côtés, que ce soit du côté européen, un groupe comme L'Oréal ou Alstom a aucun problème à travailler avec les États-Unis, et idem pour les États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Mais regardez, je vais prendre l'exemple de Boeing et d'Airbus. Quand vous voyez que ce conflit entre les deux, parce que justement, avec de la concurrence déloyale, l'accès au marché public, on a un conflit qui dure depuis 10 ans en l'OMC, on voit très bien qu'il y a des dysfonctionnements. Interroger les PME, PMI dans les classes innovantes, eh bien, c'est impossible de pénétrer le marché américain. Impossible, par exemple, de s'attaquer au Texas, parce que le jour où vous avez un problème, quand on parlait des règlements des conflits, vous avez des terminologies comme expropriation, discrimination qui ne sont pas reconnues. Vous avez aux États-Unis des juges qui sont élus au suffrage universel. Ça veut dire que pour une PME, PMI qui n'a pas les moyens juridiques de se défendre, eh bien, il est impossible de gagner un procès quelconque vis-à-vis des États-Unis. Moi, je dis très clairement, est-ce qu'aujourd'hui, la situation économique et les échanges avec les États-Unis sont satisfaisants ? La réponse est non, il suffit d'interroger l'ensemble des entreprises. Moi, on parlait tout à l'heure du secteur de la viande. Dans mon eurocirconscription, moi qui suis élu de Nîmes à Bordeaux, je prends l'exemple du jambon de Bayonne. Ils ont une chaîne pour fabriquer en Europe et ils sont obligés d'avoir une chaîne pour fabriquer aux États-Unis parce que les normes ne sont pas les mêmes. Monsieur Porcher a parlé de l'exemple Volkswagen. Est-ce qu'on a des leçons à donner ? Quand on voit le scandale qui vient d'éclater, on sait très bien que nous, on fait des sondages et des études a priori, qui sont faits d'ailleurs par des laboratoires qui ne sont pas indépendants et payés par les marques elles-mêmes, alors que les États-Unis, eux, font des enquêtes a posteriori, mais avec un degré de punition et d'amende qui est bien plus élevé. Peut-être que là, il y a une harmonisation à avoir. Et puis, vous savez, on fait comme si on vivait dans un vase clos. Aujourd'hui, moi, quand je regarde la situation géopolitique, et ça, je pense que M. Porcher n'y est pas insensible, je vois les États-Unis traiter avec le Pacifique. Je vois les pays d'Asie du Sud-Est, ASEAN, faire une vaste zone de libre-échange qui est certainement demain la zone la plus dynamique. Vous avez l'Afrique qui est en train de se structurer comme la plus vaste zone de libre-échange en termes démographiques aujourd'hui, mais certainement économique demain. Et nous, il faudrait qu'on soit là, en vase clos, à travailler à l'intérieur des 28.
Mais Franck Proust, écoutez, expliquez-nous juste une chose. Je vais donner la parole à Thomas Porcher, évidemment. Mais expliquez-nous juste une chose. Si Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump, une partie de la gauche française, une partie de la gauche allemande, si, disons, des responsables politiques aussi divers que ceux que je viens de nommer émettent des doutes, quel est l'avenir d'un projet pareil dont vous venez de décrire certains des aspects éventuellement positifs ?
Non mais attendez, je vais vous donner un aspect positif d'ailleurs et je vais répondre à votre question.
Sur la question politique, elle est importante.
Oui, mais elle est importante. Il y a 2 ans, quand on a signé l'accord de partenariat économique avec la Corée du Sud, je me souviens de M. Montebourg qui poussait des cris d'orfraie en disant « on va tuer le secteur automobile français et européen ». Quand on regarde 2 ans après, la balance commerciale s'est améliorée de 30%, y compris sur le secteur automobile. Aujourd'hui, on voit bien quand même que Les populistes et la gauche française et allemande veut flatter le côté extrémiste. Monsieur Montebourg, monsieur Mélenchon, pour essayer de créer une espèce d'union et jouer cette parole populiste et protectionniste. Encore une fois, moi, je vous ai dit, le calendrier électoral, il y a un discours pour être élu, puis après, une fois qu'on est aux affaires, d'ailleurs, madame Clinton, quand elle était au gouvernement de monsieur Obama, elle était complètement favorable aux échanges commerciaux. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on a un taux de croissance aussi faible en Europe.
Ça, on a bien compris, Franck Proust. Mais donc, ce que vous conseillez, en fait, c'est de faire campagne électorale, se faire élire, dire qu'on arrêtera le taffetas et puis le faire une fois qu'on est élu. Petite leçon de réel politique, on ne va pas dire de cynisme. Thomas Porcher.
Je pense effectivement qu'il y a clairement du jeu politique et on le voit bien, Hollande voulait accélérer le traité et Hillary Clinton voulait y aller plein pot. Maintenant, pour les PME, effectivement, il ne faut pas réagir qu'en termes de débouchés. Certaines PME pourraient trouver des débouchés, mais qu'est-ce qu'elles vont avoir en retour? Elles vont avoir une concurrence plus grande de la part d'entreprises américaines qui pourront les concurrencer et qui n'hésiteront pas, on l'a vu les années présentes, à jouer avec leur monnaie, à jouer avec d'autres éléments que n'ont pas nos entreprises européennes. Et puis disons-le, la plupart des entreprises en Europe échangent entre pays européens. Et donc là, on va ouvrir une concurrence supplémentaire, alors qu'on ne fait pas énormément de croissance, aux entreprises américaines. Donc rien n'est sûr que ce soit que du gagnant. Maintenant, il est clair que la Commission européenne n'est pas le village gaulois, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, et qu'effectivement, l'affaire de Volkswagen montre que on n'était pas du tout des gens sur cette affaire. Et je trouve ça plutôt positif que les États-Unis aient remarqué ça. Maintenant, sur l'exemple avec la Corée, avec tout le respect que j'ai pour la Corée, ce n'est pas les États-Unis. Et quand on fait des négociations avec la Corée, on ne les fait pas de la même façon avec les États-Unis. Et les papiers qui ont filtré de Greenpeace montrent bien que la position américaine était beaucoup plus stricte que la position européenne, qui était déjà prête à brader quelques pans de son économie ou à négocier au moins. Et la dernière chose, c'est que la Corée et l'Europe font du commerce interbranche, c'est-à-dire que hormis l'automobile, où là on échange des biens similaires, on échange des biens différents quasiment partout, alors qu'avec les États-Unis, on fait majoritairement du commerce intra-branche, c'est-à-dire qu'on échange les mêmes types de biens. Donc il risque d'y avoir plus de concurrence dans certains secteurs et rien n'indique, quand on voit ce qu'on nous avait promis dans des traités précédents, notamment le marché unique, que la croissance soit autant au rendez-vous que ce que disent les études.
Alors deux dernières questions très rapides. Franck Proust, est-ce que vous pensez que le TAFTA verra le jour, je ne sais pas, dans quelques mois, quelques années, ou est-ce que ça semble mal parti?
Moi, j'allais dire que, et je l'ai toujours dit, il ne faut pas privilégier la rapidité ou la concrétisation d'un accord au détriment de la qualité. C'est un accord important s'il doit y avoir un accord entre les deux premières puissances commerciales au monde. Le calendrier électoral fait que de toute façon, à mon sens, rien ne pourra avancer avant l'été 2007. C'est-à-dire une fois que les échéances électorales seront passées, que les gouvernements sont en place. Mais j'allais dire, c'est pas parce qu'un combat difficile et un combat est difficile qu'il faut pas mener. Moi, j'ai pas l'habitude de quitter un match à la mi-temps.
Donc c'est aujourd'hui, pas mort, hein, pour vous. On le comprend.
Mais c'est pas que c'est pas mort, c'est qu'on n'a pas commencé à négocier les points importants. Donc moi, je veux bien qu'on ait une position virtuelle, une position politique, mais ça fait deux ans, mais on n'a pas avancé. On a négocié les droits de douane sur des produits qui posaient pas de problème, mais sur les points importants, les points délicats, on commence les négociations. Et d'ailleurs, les fuites de Greenpeace nous ont éclairé sur le fait que la Commission menait les négociations telles que le Parlement l'avait demandé. Et quand on contrôle démocratique de cet accord, in fine, qui va décider, qui va valider cet accord, si ce n'est le Parlement européen, qui est l'expression du suffrage universel des Européens, et ensuite, vraisemblablement, les parlements nationaux, parce qu'on se dirige, en cas d'accord, vers un accord mixte. Donc, il y aura un double contrôle.
Bien compris, Franck Proust. Je voudrais demander quand même à Thomas Porcher si lui aussi, il voit l'avenir de cette manière, ou si c'est le début de la fin, comme on le disait en commençant.
C'est un traité qui est dans les tiroirs depuis une trentaine d'années, et là, qui est ressorti à partir de 2009, et les négociations à partir de 2013. Donc je pense que là, le calendrier électoral vraisemblablement joue contre le calendrier des négociations. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, les Républicains, cet après-midi, faisaient un discours au MEDEF. Ils fustigeaient l'impérialisme des entreprises américaines. Donc, on imagine que derrière, il n'est pas plutôt favorable à TAFTA. C'est le cas de tout un tas qui est aux primaires des Républicains, de candidats aux primaires des Républicains. C'est la même chose à gauche. Donc, a priori, les freins sont plutôt là sur ce traité. Et on espère que le mandat sera arrêté, ce qui ne nous empêchera pas de continuer nos échanges. Mais c'est un traité qui ne prend pas en compte l'accord de la COP21, je le rappelle. Donc, c'est un traité, pour moi, qui est plus du passé qu'un traité du futur.
Merci Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business. TAFTA, l'accord du plus fort, aux éditions Max Milo. Merci à Franck Proust, eurodéputé, membre de la commission Commerce International en duplex et en direct de Bruxelles. À suivre dans quelques instants le journal de l'International, cette dernière minute de l'AFP qui nous annonce que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est officiellement destituée. Destituée.
Splinters.
Loser de Beck. Et une précision concernant Dilma Rousseff, le Sénat brésilien vote donc la destitution de la présidente, de l'ex-présidente désormais, par 61 voix contre 20. Plus d'informations sur le sujet dans le 19h de Sébastien Paour.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Une semaine pile après le séisme d'Amatrice dans le centre de l'Italie, on parle ce soir risque sismique.
Et d'abord bien sûr dans la péninsule italienne elle-même, l'une des zones les plus à risque du continent européen, là où l'activité sismique est l'une des plus fortes. Rien que depuis la fatale secousse de mercredi dernier, qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 292 personnes, eh bien plus d'une centaine de répliques ont été enregistrées, dont certaines dépassant les 4 degrés sur l'échelle de Richter, 4 degrés 3 pour être précis, pour celle de vendredi dernier. Notre envoyé spécial Sébastien Paher était sur place à cet instant précis.
Sous le soleil de plomb, les sauveteurs fouillent les décombres. Soudain, une nouvelle secousse. Plus violente que les autres, elle détruit quelques maisons et soulève la poussière. Sarah, qui travaillait dans les ruines avec son chien, interrompt ses recherches.
Ils ont fait sortir nous et notre chien. Chaque fois qu'il y a un tremblement, ça peut s'écrouler.
Mais la jeune femme reprend rapidement son minutieux travail, car la course contre la montre se poursuit. Chaque heure compte pour retrouver des survivants.
Il y a probablement encore des personnes au-dessous des combes. Ce matin, ils ont trouvé 2 enfants vivants, donc nous espérons.
Les bénévoles arrivent de toute l'Italie pour aider les sauveteurs. Ricardo, lui, vient d'une région voisine. Il fait partie d'un groupe de 10 personnes.
On vient de la province de L'Aquila, qui fut la place du tremblement de terre en 2009. Et on est ici comme volontaire pour faire les choses que les autres gens ont faites pour nous à L'Aquila.
On vous a aidé en 2009, vous venez aider aujourd'hui.
Oui.
Comme Ricardo, des centaines de personnes sont venues apporter leur aide, des bénévoles parfois un peu encombrants qui compliquent le travail des secours.
Voilà, reportage de Sébastien Baer, diffusé vendredi dernier ici même sur Inter. Et une semaine aujourd'hui après la catastrophe, question évidemment, ce séisme d'Amatrice était-il prévisible ? Autrement dit, cette zone était-elle considérée au sommet comme étant à risque élevé ? Question que j'ai posée tout à l'heure à Jérôme Vergne, sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre. Écoutez.
En effet, la zone de Amatrice et de Norcia était connue comme une des régions les plus sismiques, si ce n'est la plus sismique de la péninsule italienne. Elle était connue pour avoir généré des tremblements de terre majeurs dans le passé, dont évidemment le tremblement de terre de L'Aquila en 2009, mais pas que. La zone particulière qui a rompu lors du séisme de mercredi était en fait située dans ce qu'on appelle une lacune sismique, c'est-à-dire une portion de la péninsule qui n'avait pas rompu depuis longtemps et qui était entourée de 2 grands séismes, donc celui de L'Aquila et puis une séquence de séismes en 1997 au nord. Donc on savait que cette région allait rompre. Donc dans ce sens-là, ce séisme n'était pas une surprise pour la communauté sismologique. Malheureusement, on ne peut travailler que sous forme de probabilité, donc la probabilité d'avoir une rupture à court terme, alors pour nous court terme veut dire d'ici quelques années, était relativement élevée, mais elle était de l'ordre de quelques pourcents, voire d'une dizaine de pourcents, donc ça fait pas une probabilité énorme. Donc on le dit souvent, malheureusement, nous n'avons à l'heure actuelle aucun moyen de prévision, au sens prévision météorologique, c'est-à-dire de moyen de donner avec certitude ou en tout cas une très forte probabilité à la fois la date, le lieu et la magnitude d'un séisme à venir.
Alors compte tenu de cette absence de moyens fiables de prévision, l'Italie doit-elle s'attendre à d'autres séismes du même type ou peut-être même plus violents ? Réponse.
Il y aura d'autres séismes du même type ou plus violents en Italie dans les années ou dizaines d'années à venir. Ça, c'est malheureusement une certitude. Donc, on a dans cette région de la péninsule italienne, et en particulier le long des Apennins, jusqu'au sud, jusqu'à la Sicile, des failles suffisamment importantes qui sont dans un état de contrainte tel qu'elles peuvent générer des séismes de magnitude supérieure à 6 dans un futur proche.
Voilà pour l'Italie. Quels sont maintenant les autres pays d'Europe les plus menacés ? Jérôme Vergne.
Au niveau de l'Europe au sens large, l'essentiel de l'aléa sismique est plutôt situé au niveau de la Méditerranée. Et dans cette zone-là, les zones les plus à risque sont essentiellement la Grèce et la Turquie, en dehors de l'Italie. Ces régions-là, en fait, ont connu des tremblements de terre importants dans le passé. Et si je prends un exemple, le risque d'un tremblement de terre important est fort en ce moment, on va dire, à proximité de la ville d'Istanbul, qui est une région qui n'a pas rompu depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, et où on s'attend à un séisme malheureusement dévastateur.
Voilà, terrifiant, un séisme dévastateur à Istanbul. Et les sismologues s'attendent aussi à de telles secousses sur toute la longueur de ce qu'ils appellent la ceinture de feu, c'est-à-dire en fait tout le pourtour du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande au Japon jusqu'à l'Alaska, puis en descendant sur toute la côte ouest des États-Unis, en passant par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est là que la vitesse de convergence des plaques tectoniques est la plus élevée, plusieurs centimètres par an. Certitude donc d'une future catastrophe. Impossible évidemment à éviter, mais que l'on peut tout de même concrètement anticiper.
On ne l'empêchera pas, ce séisme-là. Donc il faut s'y préparer. Et comme on le dit souvent, mais la meilleure manière de se prémunir des conséquences d'un tremblement de terre, c'est d'avoir des bâtiments qui résistent à ces sollicitations sismiques. C'est donc toute la problématique de la construction parasismique. On sait aujourd'hui réaliser des bâtiments capables de supporter des séismes majeurs de magnitude supérieure à 7 ou 8. Simplement, ça a un coût, c'est complexe à bâtir. Et c'est encore plus complexe de consolider des bâtiments existants. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est évidemment d'éduquer les populations aux gestes qui sauvent, d'apprendre à les se mettre sous une table ou en tout cas de se protéger de chutes d'objets ou de bris de glace. Et puis, la troisième manière qui est plus technologique, hein, sur laquelle la communauté travaille en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'alerte précoce, c'est-à-dire on va pas prévoir le séisme, mais on va essayer, à partir du moment où le séisme a lieu, d'envoyer des messages d'alerte extrêmement rapidement, de manière, par exemple, à couper le gaz, à prévenir les gens de se protéger, tout ça avant que l'onde sismique arrive. Voilà, donc ça, c'est des moyens qui se mettent en place dans assez peu de pays pour l'instant, hein, c'est opérationnel au Japon, c'est en bonne voie pour la Californie, mais ce sont des procédures extrêmement complexes à mettre en œuvre et qui nécessitent en fait d'avoir des réseaux d'observation extrêmement denses.
Voilà, Jérôme Vergne, sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg.
Et allons voir justement comment les Californiens se préparent, Michael, à ce qu'ils appellent là-bas « the big one ».
Ou littéralement le grand, le gros, le plus redouté de tous les séismes. Le jour où cédera, craquera la célèbre faille de San Andreas, longue de 1300 kilomètres, 140 kilomètres de large. En 2008, une simulation informatique avait établi le bilan potentiel de la catastrophe. Au moins 2000 morts, 50 000 blessés et plus de 200 milliards de dollars de dégâts. Avec, vous le savez, une mégalopole au cœur du chaos, Los Angeles. Los Angeles, où vous vous trouvez, Loïc Piala, bonsoir.
Bonsoir.
Alors la ville des anges n'est qu'à 50 kilomètres seulement de la faille de San Andreas. Et apparemment, Loïc, les Californiens ont plutôt intégré le risque de tremblement de terre de grande ampleur.
Oui, il y a même une équipe de professionnels de soccer qui s'appelle les Earthquakes, c'est pour vous dire. Il y a un exemple qui relève du détail sur Twitter, un chatbot, un de ces comptes automatiques qui informe au quotidien des séismes à Los Angeles. Et puis, beaucoup d'habitants évitent de placer un cadre au-dessus de leur lit, par exemple, pour qu'il ne leur tombe pas sur la tête. Ils gardent aussi les chaussures au pied du lit au cas où les fenêtres casseraient. Et puis, ils sont des dizaines de milliers à participer chaque année au Shake Out, une grande journée de répétition générale dans toute la Californie sur quoi faire en cas de tremblement de terre. Ce sera au mois d'octobre. On y apprend la règle de base, drop, cover, hold on, mettez-vous au sol, couvrez-vous et accrochez-vous. Et dans les garages ou les voitures, on va souvent trouver un kit de survie, des bouteilles d'eau, des barres énergétiques, une lampe de poche et surtout de l'argent liquide au cas où les distributeurs ne fonctionneraient plus. Et en revanche, moins de 10% des Californiens sont assurés contre le risque de séisme. Le taux était de 30% il y a 20 ans, mais depuis Northridge en 1994, il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur et c'est sans doute ce qui explique un peu cette tendance à la baisse.
Bon, et au niveau maintenant des autorités, Loïc, on se prépare à quoi concrètement?
La simulation que vous évoquiez tout à l'heure a attiré l'attention sur trois problèmes principaux à Los Angeles. D'abord, des constructions d'avant les années 80 qui ne sont pas aux normes, la faillite du système de distribution d'eau et puis des communications vulnérables, sans parler des centaines d'incendies que les secours n'auront pas le temps d'éteindre ou des coupures de courant qui dureront des semaines. Du coup, le maire, Eric Garcetti, a fait passer l'an dernier une mesure qui a identifié 15 000 immeubles à rétrofiter, c'est-à-dire dont il faut renforcer les structures. Ça se fait déjà pour des maisons individuelles, il faut compter dans les 5 000 $, mais pour un immeuble, la facture monte très vite et se pose donc la question du financement, et cette question n'a toujours pas été réglée. Même problème pour le système d'alerte qui a été mis au point pour prévenir de l'arrivée d'un séisme, quelques secondes avant l'arrivée du séisme. Rien que pour installer les 550 capteurs dans tout l'État de Californie, il faudrait investir 38 millions de dollars. Et puis comme ailleurs, le risque de séisme est pris en compte dans les constructions. Un projet de gratte-ciel à Hollywood a été rejeté récemment à cause de la proximité d'une faille. Et puis le Wilshire Grand Center, qui sera le plus grand building de l'Ouest américain, 335 mètres de haut, est lui bien en chantier dans le centre des affaires. Ce qui se passe, c'est que les pylônes principaux sont renforcés par des bagues horizontales qui doivent l'aider à absorber les éventuelles secousses.
Loïc Piala en direct de Los Angeles, merci beaucoup. Et donc ce prochain check-out en octobre, la grande répétition générale, eh bien on vous la fera vivre ici même.
Et on ne perd pas les bonnes habitudes, Michael. Comme chaque semaine, direction maintenant Bruxelles.
Comme la saison dernière, mon bon monsieur, petites et grandes infos dont personne ne parle à part nous. Et figurez-vous, Nicolas, qu'au Parlement européen, c'est aussi la rentrée cette semaine. Et une rentrée placée sous le signe du scandale. Bonsoir Quentin Dickinson en direct de Bruxelles.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Bon alors, ce petit scandale, Quentin, porte un nom très célèbre, celui de Messerschmitt.
Alors ce Messerschmitt-là n'est ni allemand, ni fabricant d'avions militaires et de micro-voitures. Morten Messerschmitt, 35 ans, dont 20 de politique, a longtemps été l'étoile montante de la droite souverainiste au Danemark, le surdoué qui réussit tout et que rien ne fait trébucher, d'où son surnom de Monsieur Teflon, en dépit notamment d'une condamnation en correctionnelle pour la publication d'un article soutenant qu'une société multiethnique conduit directement au viol et à l'insécurité générale. Beau gosse, il posait volontiers avec sa sculpturale compagne, de 22 ans son aînée, ça peut arriver en politique, l'ex-chanteuse Dot Westman, dont le plus grand succès fut le titre « Noël en Europe », ça ne vous dit rien, moi non plus. Député national, puis député européen du Parti du peuple danois, le voilà au fait de sa popularité, mais c'était avant l'été.
Mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur Messerschmitt ?
Eh bien, tout simplement, il s'est mis en tête de fonder un parti politique pan-européen. Cela ne se sait pas trop, mais le Parlement européen dispose d'argent pour encourager ce type d'initiative, même si le fonds de commerce du parti s'avère ouvertement europhobe. Alors, il y a quand même des règles. Il faut par exemple réunir des députés européens d'au moins 7 pays différents. À M. Messerschmitt, eh bien, il manquait un pays pour faire le compte, mais qu'à cela ne tienne, il modifie le nom d'une élue danoise et la déclare lituanienne. L'élu en question proteste, démissionne du parti et porte plainte pour usurpation d'identité.
C'est surréaliste et en plus, Quentin, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Non, c'est même plutôt le début, car les services du Parlement européen vont rapidement s'apercevoir que les fonds alloués aux micro-partis fantômes ont servi notamment à financer une campagne électorale au Danemark et à payer à un ami une pseudo-indemnité de licenciement de 170 000 euros. Monsieur Messerschmitt est donc prié de rembourser les plus de 400 000 euros détournés par lui. Alors, un bref rappel pour terminer. Pendant deux mois en 2010, Monsieur Messerschmitt a tenu une chronique quotidienne dans un grand journal de son pays. Tous les jours, il se faisait fort d'y révéler une nouvelle affaire de corruption ou de gaspillage financier attribuée par lui à l'Union européenne. Parole d'expert.
Formidable. Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Merci beaucoup. Et Nicolas, à demain.
À demain, Michael. Deux stars à suivre sur France Inter. Arnaud Le Parmentier et tout de suite Rihanna.
This whiskey got me feeling pretty, so pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm turned up upstairs and
elle sait chanter ma mélancolie, Higher de Rihanna, 18h54.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous avez scandaleusement rajeuni pendant ces vacances. Et vous nous parlez ce soir de la prune infligée à la pomme.
Oui, alors commençons par Apple. Apple qui écrit fièrement au dos de ses iPhones conçus en Californie, assemblés en Chine. Eh bien, la firme fondée par Steve Jobs aurait pu ajouter « et vendu en Europe en franchise d'impôts ». Car en effet, depuis des années, on a découvert que le géant informatique ne payait pas d'impôts en Europe ou si peu. Elle a mis en place un astucieux système qui lui permet de localiser ses profits européens en Irlande et d'être taxé à hauteur de 0,005%. On est très loin du taux d'imposition théorique déjà très faible de 12,5% qui prévaut en théorie en Irlande. Eh bien, ce sera bientôt chose révolue. La Commission européenne a décidé hier d'infliger une amende de 13 milliards d'euros à la firme, ou plus précisément, elle lui demande de rembourser au fisc irlandais la totalité des avantages fiscaux indus accordés sur la période 2003-2014, estimant qu'il s'agissait d'une aide d'État illégale.
Et conséquence, panique à Palo Alto et fureur à Washington.
Alors les Américains jouent à faire peur aux Européens. Ils expliquent que cette décision est, je cite, injuste, qu'elle pourrait, je cite, saper les investissements étrangers en Europe. En réalité, cette décision n'est pas injuste, elle est juste. Il est normal, tant qu'existe l'impôt sur les sociétés, que les entreprises fussent à l'américaine n'en soient exonérées. Cette situation est devenue intenable dans un monde où les États sont impécunieux, où la numérisation permet aux multinationales de localiser leurs profits sous les cieux les plus cléments. En réalité, l'Irlande, même s'il y pleut. Alors, la menace américaine sur l'activité ne tient pas non plus. Les géants de l'informatique, ces fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, regorgent une trésorerie dont ils ne savent que faire. 200 milliards de dollars de cash chez Apple. Le capitalisme numérique obéit à l'adage « The winner takes all ». Dans mon bon anglais, le gagnant remporte tout le marché. C'est du succès à l'abus de position dominante, il n'y a qu'un pas que les régulateurs doivent surveiller.
Et des représailles, Arnaud, sont à craindre ?
Mais non, mais pas du tout, parce que si les États-Unis poussent des cris d'orfraie, c'est qu'ils savent qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux. Nul ne fait jamais plier dans aucun domaine les États-Unis, si ce n'est la bienheureuse direction de la concurrence de la Commission européenne. C'est elle qui a interdit au début du siècle la fusion entre deux entreprises pourtant à 100% américaines, General Electric et Honeywell, au nom de la défense de la concurrence. C'est elle qui s'est attaquée aux abus de monopole de Microsoft, c'est elle qui ose tenir tête aux GAFA.
Et la prochaine étape ?
Eh bien, il faut aller plus loin. L'Irlande envisage de faire appel de la décision. C'est curieux, mais en réalité, c'est qu'elle ne veut pas récupérer le redressement fiscal. Elle veut continuer d'être un cheval de Troie, taxant très peu les immenses profits des multinationales étrangères, ce qui lui permet de vivre tranquillement, mais dépouille financièrement ses voisins européens. Cela n'est plus possible. De même, il faut mettre en garde, les Anglais envisagent de se transformer en paradis fiscal, de devenir la porte d'entrée de l'Union européenne après le Brexit. En tout cas, cette décision montre que l'Europe change sous la houlette de la commissaire Margrethe Vestager et de Jean-Claude Juncker. L'ancien Premier ministre du Luxembourg chasse la fraude fiscale et les abus avec la foi des nouveaux convertis. Donc cette décision est une bonne nouvelle qui permet de rappeler qu'en dépit des difficultés, la Commission européenne et sa direction de la concurrence œuvrent pour la défense des Européens.
Merci Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde. 19h20, le téléphone sonne, je vous le rappelle. Sur le lait, les producteurs français étaient en conflit ouvert avec leur acheteur principal, Lactalis, accusé de les payer trop chichement. Un accord a été trouvé hier entre les deux parties. Alors on va regarder ce soir quels en sont les détails, mais surtout quels sont les perspectives pour la filière lait. Intervenez, j'attends toutes vos questions. C'est un sujet passionnant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Trois invités tout à l'heure pour répondre à vos questions. Thierry Roquefeuille de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait, Olivier Picot de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière et Francis Amand, médiateur des relations commerciales agricoles. Sébastien Paour à suivre.